bienvenue sur le podcast de l'Institut V qui va à la rencontre des professionnels de la gastronomie végétale. Je suis Karine Castro et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour vous présenter Fanny Mijon. Issue d'une reconversion professionnelle, Fanny a eu rapidement envie de faire un métier autour de la cuisine. Son blog The Friendly Kitchen a été son premier pas dans l'univers du végétal et son compte Instagram lui a permis de montrer ses premières créations culinaires et de conquérir peu à peu son public. Autodidacte, Fanny s'est construit son expérience sur le terrain jusqu'à pouvoir créer son propre projet. The Friendly Kitchen devient son restaurant et un lieu de vie qu'elle a créé à son image. Chez The Friendly Kitchen, Fanny travaille la cuisine végétale bien sûr, mais aussi les produits bio et français. Sa carte s'accompagne de vins naturels, dessinés dans l'intention de créer un lieu de vie où il fait bon se retrouver en famille ou entre amis. Je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui, et maintenant que les restaurants ont tous réouvert, courez chez The Friendly Kitchen pour découvrir l'univers de Fanny. Je vous laisse à notre conversation et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fanny, comment vas-tu ?
Bonjour Karine, ça va et toi ?
Ça va, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode, d'autant qu'on se connaît depuis quelques années maintenant.
Ça commence à faire, ouais.
Je me souviens, j'avais publié un article sur toi, c'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés pour une échange d'interview et tu n'avais pas encore créé ton restaurant.
Non, ouais, c'était bien avant tout ça.
Ouais. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accompagner quand même ton évolution, alors même malgré la crise, hein, mais c'est intéressant d'accompagner un petit peu ton parcours, de voir
l'évolution.
Tu en es aujourd'hui, ouais, bravo en tout cas.
Merci.
Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans et du coup, je suis la gérante du restaurant Vegan The Friendly Kitchen qui est à Paris et que j'ai ouvert en novembre 2019, donc il y a un an et demi finalement.
Oui. Avant ça, donc, tu avais eu un parcours un petit peu atypique puisque tu as démarré avec un blog et un compte Instagram pour un petit peu ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous parler de cette période ?
Oui, bah à l'époque, en fait, j'étais... Enfin, du coup, moi, c'est une reconversion. Je ne suis pas du tout de la cuisine de base ou de formation. Et je travaillais dans la mode, en fait, et j'avais cette envie de faire un peu plus de cuisine et potentiellement d'en faire mon métier. Et à l'époque, bon, bah forcément, je ne savais pas trop par où commencer. Et l'étape un peu blog, Instagram, c'était une manière de partager des recettes, moi, de créer et de commencer un peu à me familiariser avec le secteur aussi et la communauté food vegan qui était un peu en train de se développer à Paris. Donc, c'était un peu la première étape pour mettre un pied dedans.
Alors, le compte Instagram aujourd'hui, il marche bien. Il a plus de 15 000 followers, je crois.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Le blog, il existe toujours ?
Non, je l'ai fermé en fait bah, juste avant de créer le restaurant. Parce que déjà, il fallait que je récupère le nom de domaine. Et je trouvais ça pas du tout pertinent d'avoir et le blog et le restaurant. D'une part, parce que les recettes que je partageais, c'est pas du tout des choses que je fais au restaurant. C'était plus... une cuisine que je faisais, une cuisine à la maison, sans que ce soit, c'était quand même travaillé, mais c'est pas du tout le même type de recette que ce qu'on propose au restaurant. Et je voulais pas qu'il y ait un amalgame entre les deux et une confusion qui se fasse entre les deux types de recettes et d'offres.
Ouais. Alors ensuite, après ça, tu as fait ton expérience sur le terrain, parce que tu n'as pas fait d'école de cuisine, il me semble.
Non, ouais, c'est ça.
C'était un choix.
Bah, c'était un choix un peu contraint aussi, on va dire, puisque finalement, comme il n'y a pas de CAP vegan et même végétarien, repasser par la case CAP et clairement apprendre à couper, cuisiner de la viande, du poisson, etc., ça ne me paraissait pas du tout pertinent. Et même par rapport à la pâtisserie, parce que en fait, je m'étais dit, je vais apprendre à utiliser des œufs, du beurre, de la crème dans des recettes traditionnelles. Mais derrière, il va falloir que moi, j'apprenne à faire autrement sans ces ingrédients-là. Donc, je ne voyais pas trop l'utilité, d'autant plus qu'en fait, en restauration, on n'est pas obligé d'avoir un CAP pour pouvoir ouvrir un restaurant, à l'inverse de la pâtisserie où il faut un CAP pâtisserie pour ouvrir une pâtisserie. Donc, finalement, le constat, il a été assez rapide. Je me suis dit que je préférais apprendre sur place dans des établissements qui étaient déjà existants plutôt que de passer par un CAP et devoir derrière faire tout de même cette expérience-là puisque j'en aurais eu besoin quoi qu'il arrive.
Et c'est bien tombé, en fait, dans la bonne période, en tout cas, puisqu'à ce moment-là, dans ces années-là, 2015, 2016, commençaient à ouvrir les coffee shops vegan, les restaurants vegan. Donc, c'est là où tu as fait ton expérience.
Ouais, c'est ça. J'avais, ben en fait, tout simplement, je crois que j'avais ouvert l'application Apicao qui existait déjà à l'époque et j'avais regardé tout ce qui était ouvert à Paris en vegan et végétarien. Et c'est clair que ce n'était pas du tout les 60 établissements qu'il peut y avoir maintenant. Je pense qu'il y en avait peut-être une quinzaine ou 20 grand max. Et dedans, j'avais ciblé un peu ceux qui me plaisaient en termes de cuisine. Et en fait, bah, je les ai tous contactés un à un pour savoir s'ils cherchaient des extras. Et de là, bah, j'ai pu enchaîner des extras à droite à gauche, parfois 3-4 jours, parfois juste une soirée. Donc, je faisais ça en parallèle de mon ancien poste, quoi, pour voir déjà si ça pouvait me plaire et puis petit à petit trouver un poste, quoi.
Et ça t'a plu?
Oui. Bah, tout de suite, en fait.
Et qu'est-ce qui
Sans
t'a
grande surprise, ouais.
qu'est-ce qui t'a
Ouais.
plu
Bah, en fait, je pense que déjà, enfin, y a peut-être certaines personnes sont faites pour rester devant un ordinateur ou pas. Et moi, je pense que les premiers extras d'être debout en cuisine avec un rythme, même si c'est soutenu et que c'est fatigant, bah, en fait, c'est jamais pareil. Même s'il y a une certaine routine qui se fait au fur et à mesure d'un établissement, mais finalement, les journées, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas forcément. Et déjà, ça m'a plu. Et ouais, d'avoir un métier manuel, d'être avec des gens bah, de tous horizons, c'est un peu plus diversifié que ce qu'on peut avoir en entreprise aussi. Donc ça, tout de suite, j'ai accroché.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené progressivement à vouloir créer ton propre projet?
Ça, je pense que je l'ai toujours eu un peu dans un coin de ma tête, déjà assez jeune. Et le fait d'avoir. En fait, j'ai fait des études d'école de commerce, donc avec un master, et c'est vrai qu'on avait des cours création d'entreprise. Et même si à l'époque, je ne me suis pas dit je veux monter ma boîte, en fait, petit à petit, à partir du moment où j'ai eu envie de faire de la cuisine, c'était assez évident que ça allait ensemble. D'une part, parce que ce qui me plaît dans la cuisine, c'est la création. Et je trouve que c'est assez difficile d'être chef dans un établissement qui n'est pas le sien, de créer des recettes. Et finalement, bah, de laisser sa patte, mais sans que ça soit ton propre restaurant. Donc, en fait, pour moi, ça allait ensemble. C'était assez évident. Et c'est vrai que, bah, avec le bagage d'études que j'avais, ça facilite les choses, forcément, parce que je savais comment m'y prendre, quoi.
Oui, c'est un parcours cohérent. Tu allies ta passion de la cuisine avec tes valeurs personnelles dans un projet qui le tient, source d'épanouissement.
Ouais, c'est ça.
Et donc, tu as créé ton restaurant en novembre 2019, donc à Paris. On peut rappeler l'adresse?
Ouais, c'est au 8 rue Popincourt, dans le 11e métro Voltaire.
Un quartier qui bouge bien, d'habitude, hein, quand les restos sont fermés.
Ouais. Puis il y a de plus en plus d'adresses végétariennes ou véganes autour, donc c'est bien de voir que ça prend de plus en plus dans le quartier. Ouais,
Oui, le 11e devient un nouveau Vegetown.
carrément.
Au niveau du nom, tu parlais tout à l'heure du nom de domaine par rapport à ton compte. Donc, c'est quelque chose qui est venu naturellement. C'était déjà réfléchi que tu allais appeler ton restaurant de la même manière.
Au début, je voulais changer de nom. Je voulais quelque chose d'un peu plus court et de plus facile à prononcer. Et en fait, les pistes de nom que j'avais étaient. Enfin, en fait, j'ai regardé sur l'INPI, il faut que tu fasses une petite recherche avant de déposer ton nom. Donc, ceux que j'avais en tête étaient soit pris, soit que ce soit en France ou en Europe, où ça pouvait porter à confusion. Et c'est vrai que bah, pour le référencement Google ou Internet plus largement, ça pouvait poser problème. Et je me suis dit finalement, autant garder le même nom parce que déjà, pour garder une clientèle, les gens savent de quoi on parle parce que ça m'avait accompagnée depuis 2 ans. Et puis ça n'existait pas, donc ça simplifie un petit peu le choix aussi, quoi.
Et avec ce nom anglophone, est-ce que tu observes avoir des clients anglophones aussi ou pas forcément?
Oui. Puis je pense que de toute manière, dans la clientèle VG, il y a beaucoup d'anglo-saxons, pays du Nord, etc. Et clairement, bah, avant le Covid, on avait des étrangers tous les soirs. Ça, y a pas de. Enfin, ça fait partie de la clientèle de ce type d'établissement, quoi.
Et puis maintenant, tu es sur les applications aussi, comme celle dont tu parlais tout à l'heure, Apicao,
Ouais.
de
Donc
trouver.
ça aide quand on voyage à trouver des restaurants véganes, ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton lieu?
Alors, moi, l'idée, c'était vraiment un restaurant, bon, déjà 100% végétalien, il n'y avait pas de doute là-dessus, puisque c'est mon mode de vie. Et après, ce qui était important pour moi en termes de valeur, c'était déjà le bio, de travailler vraiment qu'avec des produits biologiques et essentiellement français, surtout sur la partie frais, tout ce qui est fruits et légumes. Après, tout ce qui est épicerie, on fait un choix le plus européen possible, mais clairement, ce n'est pas aussi facile de se fournir en français. Par exemple, le riz, le quinoa, on a une offre française. Après, moi, je sais que je vais toujours le favoriser, mais elle a un coût aussi auquel on ne pense pas forcément, parce que du quinoa de Bolivie, il est 3 ou 4 fois moins cher que le français. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir quand on fait le choix de travailler des produits français. Et surtout, la partie moi, qui me plaisait un petit peu, c'était la partie vin, puisque j'avais travaillé avec Claire Brachet pour qu'on dessine une carte de vin naturel, sans sulfite ajouté, ensemble. Donc là, on a une douzaine de références. Parce que j'avais vraiment cette idée d'un lieu de vie où on peut manger une cuisine très végétale déjà, donc pas du tout sur les simili carnés, plus sur les légumes, les céréales, les légumineuses. Et un peu, pour moi, c'est un lieu un peu plus du soir, parce qu'on a un positionnement quand même qui est un petit peu haut de gamme, sans être gastro ni rien, mais plus bistronomique, on va dire. Donc j'aimais cette idée de pouvoir avoir un lieu le soir où se retrouver entre amis, en famille, profiter d'une bonne bouteille de vin aussi, parce que je trouvais que, enfin moi, en tant que cliente, le vin, on a du mal des fois à avoir les informations sur ce qui est vraiment vegan ou pas. Même s'il commence à y avoir de plus en plus la notation sur la bouteille, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à trouver. Donc j'avais un peu cette envie-là. Et puis après, la carte s'est étoffée avec des softs ou des bières artisanales aussi. Et pareil, faites en France, bio. Vraiment ce créneau-là que je tenais à garder.
Et alors, qu'est-ce que tu proposes quand tu as ouvert, qu'est-ce que tu proposais à la carte?
L'idée, quand j'avais ouvert, j'avais vraiment envie d'avoir pas mal de petites entrées à partager pour rejoindre un peu cette idée apéritif, partage, etc. Donc, on avait 5 entrées, 3 plats, 3 desserts. Et en fait, très vite, il y a eu beaucoup de monde au restaurant. Donc, ce n'était pas du tout gérable à deux en cuisine d'avoir une carte aussi, aussi large. Donc là, depuis, on l'a réduite vraiment à 3 choix par entrée, plat, dessert. Sachant qu'il y a toujours en entrée un houmous ou quelque chose, une tartinade accompagnée de crackers maison, qui est un peu le truc qui marche depuis l'ouverture, et toujours une assiette de légumes rôtis ou des choses un peu dans ce style-là. Et pareil sur les desserts, je vais réfléchir à avoir un dessert au chocolat, un dessert aux fruits et peut-être un autre dessert plus type une petite crème ou panna cotta, pour avoir des choix assez larges et plaire à tous, parce que pareil, tu vois, le chocolat, moi, je m'étais dit, est-ce que vraiment je vais en faire? Je me disais, je vais peut-être m'en passer parce que ça reste un produit exotique, mais clairement, on n'en est pas encore là. Et c'est toujours le dessert qui marche le mieux, donc c'est compliqué de se passer de certaines choses et de certains produits encore aujourd'hui, quoi.
Oui, donc tu t'autorises à aller chercher des produits quand même un peu d'ailleurs, mais qui restent des produits phares que les gens...
Ouais, je pense que c'est... Par exemple, tu vois, les fruits exotiques, je pense que je les ai travaillés sur un dessert. Et là, depuis maintenant, c'est quelque chose, je pense, dont je me vois me passer de plus en plus, parce que je commence aussi à prendre mes marques en cuisine ou sur les fruits d'hiver. Certes, il y a peut-être que la pomme, la poire et l'orange, mais on arrive aussi à faire des choses sympas. Et il y a eu un hiver, on avait travaillé une pomme rôtie ou une poire pochée, c'était aux épices golden, et ça avait super bien marché. Donc, je me dis finalement qu'il y a, en proposant aussi des choses très, très locales et très de saison, il y a quand même des propositions à faire et qui peuvent marcher, quoi.
En cuisine végétale, effectivement, il y a des produits qui viennent peut-être de loin ou qui sont un peu simili-carnés, là, dont tu parlais tout à l'heure, qui peuvent aider à construire des cartes. Mais en tout cas, ton idée, c'est de revenir quand même à du produit brut, frais, local.
Ouais, en termes de les simili, je crois que j'ai utilisé une fois des protéines de soja texturées parce qu'on avait fait une sorte de parmentier au céleri rave, mais sinon on utilise du tofu. J'aime bien, en fait, en général, quand je construis ma carte, j'aime bien avoir un plat avec du tofu et les autres sans, aussi parce que je fais pas mal attention à tout ce qui est allergène, donc j'aime bien avoir une proposition sans soja, une sans oléagineux par exemple, parce que c'est vrai que dans la cuisine végétale, très vite on va mettre beaucoup d'amandes, de noisettes, de choses comme ça pour apporter du croquant aussi, puis des bons lipides. Donc je réfléchis souvent comme ça. Et le tofu, donc ça, on l'utilise. Par contre, ouais, tout ce qui est simili, pas du tout. Tout ce qui est simili fromage, non plus. À part pour travailler avec Genjoy, qui est la crèmerie végétale là, qui était à Paris. Parce que pour moi, ce n'est pas le même travail qu'acheter des tranches de cheddar. Ça reste de l'artisanat. Et en plus, c'est fait à Paris ou en région parisienne. Donc, ce n'est pas du tout le même type de produit, ni la même démarche. Et je trouvais ça enfin, en plus cohérent d'avoir une assiette de fromage pour accompagner des boissons le soir, toujours dans ce côté un peu partage et découverte de différents produits, quoi.
Et aujourd'hui, ta clientèle, elle est plutôt végane ou elle accueille, enfin, ton lieu accueille différents types de clients?
Non, différents types. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que souvent le schéma, c'est sur une table de quatre personnes, il y a peut-être un vegan. Et qui en fait va venir avec ses amis, sa famille pour leur faire découvrir. Et après, honnêtement, il y a toujours des curieux. Donc, le cœur de la clientèle est peut-être végétarienne ou végane, mais c'est pas du tout la majorité en fait, parce que finalement, ça suffirait même pas, je pense, à faire vivre un établissement et à ce que ce soit rentable, parce que même si ça prend de l'ampleur, ça reste, on reste très minoritaire. Donc, il faut qu'il y ait des curieux. Pour que ça tourne.
C'est intéressant ce que tu dis parce que certains chefs traditionnels ont parfois la crainte de proposer du végétal, de peur de devenir un restaurant végétarien alors que ce n'est pas leur cœur de cuisine.
Oui.
Mais effectivement, en fait, dans la clientèle végane, ils ne viennent jamais tout à fait seuls, donc ils viennent avec leur famille, leurs amis. Donc, sur une table, on peut se retrouver avec beaucoup plus de non-végétariens que de végétariens ou véganes.
Oui, complètement. Non, et puis en plus, enfin, moi, je le vois bien dans les habitués qu'on a pu avoir avant toute la période Covid. Enfin, là, j'en vois quelques-uns, en effet, qui sont véganes, mais il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas du tout. C'était juste des gens du quartier et qui venaient, par exemple, bruncher quasiment tous les samedis, mais juste parce qu'ils habitaient à côté, ils avaient envie de manger bio, bon, et de passer un bon moment, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que ce soit végétal dans l'assiette ou pas, quoi.
Qu'est-ce qu'ils
Donc,
viennent
c'est
chercher
pas.
en fait? C'est le côté healthy, le côté bien-être.
Ouais, je pense que c'est un petit peu de tout ça et de se dire que tu peux manger aussi en. Comment dire? Je pense enfin, si tu as un minimum de. Si tu as des valeurs qui sont celles de un peu écologie, manger bio, manger local et relativement sain, parce qu'après, c'est vrai que je propose pas tout ce qui est. Enfin, je ne fais pas de friture, je fais toujours attention à ce qu'il y ait beaucoup de légumes dans l'assiette, donc c'est pas non plus, ça reste une cuisine équilibrée. Donc je pense que c'est un petit peu de tout ça, plus la partie fait maison aussi. Et je pense que ce qui rassurait aussi pas mal les clients, c'est le côté un peu cuisine ouverte que j'ai au restaurant, où bah, mine de rien, en fait, tu es dans la salle, tu vois la cuisine. Donc bah, on nous voit travailler, on voit que c'est propre, on voit que c'est, enfin, qu'on n'ouvre pas des boîtes ni rien. Donc ça, je pense
Rassurant.
qu'aussi, ouais, il y a un côté rassurant. Et c'était déjà revenu dans des commentaires ou des avis que j'avais pu avoir. Et c'est pour ça que quand j'avais visité le local, j'avais vraiment voulu garder ce côté ouvert aussi de la cuisine, quoi.
C'est très
Parce
intéressant
que.
parce que ça veut dire que quand tu décides d'ouvrir un établissement de ce type, en fait, avoir une cuisine ouverte aide finalement à rassurer les clients qui viendraient en famille avec un vegan, par exemple. Et puis ça permet de communiquer aussi. J'imagine qu'il y a une fluidité aussi dans la communication plus facile. On arrive au bar, je me souviens, il y a le bar quand tu rentres.
Ouais. On voit la cuisine derrière, donc on nous voit travailler. Et même pour moi, après, c'était un gros plus, même personnellement, parce que finalement, bah, je suis la seule gérante et je suis chef de cuisine. Mais du coup, bah, d'avoir une verrière et d'avoir une cuisine ouverte. Ça me permet de voir les clients, de voir
Oui,
ce qui se
c'est
passe
pour
en
toi.
salle, de suivre tout ça aussi, parce que sinon on est vite enfermé dans un espace sans contact du tout. Donc là c'est tout l'inverse.
Tu participes à la salle en fait,
Ouais.
depuis la cuisine.
C'est ça.
Ah, c'est top.
Donc c'est sympa.
Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter des plats végétaliens ou véganes faits par des grands chefs, par des chefs traditionnels?
Bah écoute, non, du tout. Là, je réfléchis. Après, moi, j'avais plus les découvertes que je pouvais faire en termes de cuisine, c'était le restaurant italien. Là, je ne sais pas s'il a fermé ou pas. J'ai un trou sur son nom, qui était dans le 6e arrondissement.
Mazarine.
Ouais.
Oui.
Ou ils sont pas végétariens de base, mais l'offre est végétarienne et tu as toujours plein d'options véganes. Et c'est vrai que bah, on voit enfin concrètement que c'est pas la même manière de travailler que je pense que les restaurants qui sont strictement véganes parce que y a d'autres techniques qu'on connaît pas forcément. Tu vois, tout ce qui est fumer un produit ou des choses comme ça, bah, que tu apprends aussi en CAP hein, et en cuisine traditionnelle. Mais quand on est autodidacte, y a des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Mais sinon, non, j'ai pas trop pris le temps ou le parti d'aller voir un petit peu ce qui pouvait être proposé ailleurs.
Et ça te manque, ces techniques, ces gestes que tu aurais pu apprendre en CAP, tu penses que ça te manque au quotidien ou pas forcément?
Alors au tout début, non. Là, je commence seulement à me poser un peu la question. Bon, après, l'année, elle a été entrecoupée de fermetures, réouvertures, etc. Mais par exemple, tu vois, on va dire qu'au bout d'un an, là, sur les mois de septembre, octobre, avant qu'on referme pour le deuxième confinement, c'est le moment où je commençais à me dire que j'étais plus à l'aise avec ce que je faisais en cuisine, avoir un peu plus de recul, un peu plus de temps aussi. Et depuis cette période-là, justement, je commence à me dire, bah, tiens, je pourrais peut-être réfléchir à d'autres choses ou m'y intéresser, etc. Donc, je pense que ça va se faire un peu au fur et à mesure que j'aurai du temps qui se débloque. Mais oui, je pense qu'après, puis même en termes de créativité, il y a un moment où quand tu as un petit peu essayé tout ce que tu pouvais en termes de capacité, bah, c'est intéressant de voir ailleurs un peu ce qui se passe. Donc, ça va venir, ouais.
Alors aujourd'hui, comment tu es impactée par la crise du Covid?
Bah moi, le plus gros impact, comme je suis une entreprise qui est très récente, c'est vraiment d'avoir été freinée dans ma croissance finalement, parce que même si ça a bien marché dès le début, quand on a fermé au premier confinement, bah, je commençais à décoller, à voir le nombre de couverts augmenter, etc. Donc c'était le moment en fait où je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je recrute, que l'équipe s'agrandisse pour que je puisse avoir un peu d'aide en cuisine et puis en salle aussi, quoi. Donc, on a dû fermer. Donc, en fait, c'est toute cette période de croissance qui a été finalement annulée. On va dire que je pense que globalement, quel que soit le type d'établissement ou de commerce ou d'entreprise qu'on ouvre, c'est entre la première et la deuxième année qu'on le gros de la croissance se fait, où on investit, où on se développe. Et moi, c'est toute cette partie-là qui a sauté. Donc, il va falloir reprendre. Mais après, sinon, financièrement, peut-être aussi de par mon parcours, hein, on va dire que je suis plutôt une bonne gestionnaire. J'ai été bien formée à ce niveau-là. Donc, financièrement, ça va d'avoir fermé. J'ai un petit peu maintenu la trésorerie à flot. Mais après aussi, bah, en faisant des sacrifices, parce que je ne me suis pas payée depuis mars bah, 2020, quoi, depuis qu'on a dû fermer. Donc là, je vais pouvoir recommencer avec la perspective d'une réouverture. Mais ça implique des sacrifices aussi pour garder un petit peu l'entreprise à flot. Et puis, je pense qu'il y a un gros décalage aussi entre ce que le gouvernement annonce, promet et ce qui, dans les faits, arrive. Puisque j'ai l'impression, en tout cas, que par exemple, bah, pour le commun des mortels ou des citoyens, entre guillemets, on se dit bah, finalement, les restaurants, ils ont leurs 10 000 euros d'aide par mois. Mais on ne se rend pas compte que bah, selon le type de restaurant, 10 000 euros, ça peut être très, très bien, comme finalement pas du tout suffisant quand on a un local qui coûte très cher et qu'on a une vingtaine d'employés. C'est pas grand-chose. Et puis après, bah, il reste quand même beaucoup de charges, en fait, puisque la restauration, c'est un secteur où il y a quand même des grosses charges fixes et variables. Et hors loyer, bah, l'URSSAF ou ce genre de choses, ça reste là. Donc, c'est pas. C'est, ouais, c'est une gestion qui n'est pas simple.
Tu as les mêmes problématiques qu'un restaurant classique. C'est pas parce que tu es un restaurant vegan que tu as d'autres problématiques que les autres n'auraient pas, par exemple.
Non, 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 ouais, c'est le même fonctionnement, ouais.
Est-ce que cette période t'a quand même permis de renouveler ton activité ou de la réfléchir autrement? Tu as mis en place le click and collect?
Ouais, on en a fait un petit peu, en fait, un peu de manière ponctuelle et on and off, on va dire, parce que je trouve ça très compliqué quand on fait de la restauration traditionnelle où finalement son métier, c'est louer un local qui est suffisamment grand pour accueillir les gens, donc c'est un coût. Et le cœur de métier, c'est accueillir les gens, partager, passer du temps à table. Et quand on se retrouve finalement à payer un local qui est 3 fois trop grand pour faire de la vente à emporter, il faut faire du volume en fait. Donc c'est deux business models complètement différents. Et enfin, moi, j'ai eu souvent ce retour de l'extérieur, que ce soit des amis ou des gens qui ont d'autres types d'entreprises, de « Ah, mais pourquoi tu ne fais pas de la livraison et du click and collect ? Ça marche bien. » Mais en fait, quand on ne fait pas de la restauration rapide, ce n'est pas la même manière de travailler. Et finalement, même en faisant un volume tout à fait honorable de vente à emporter, bah, la charge du loyer ou des charges qui vont avec n'est pas du tout la même que quand on a un petit local. Donc, il y a déjà ce frein-là. Et de deux, bah, c'est vrai que moi, si j'ai fait le choix de faire de la restauration assise à table, c'est parce que je n'aime pas forcément la restauration rapide. Mettre des plats dans des boîtes, ouais. Bah, en fait, tu n'as plus de contact avec le client. Tu sais que ce que tu vas livrer, il va être moins bon que sur place parce qu'il va mettre du temps à arriver. Enfermé dans une boîte, bah, tu as de la vapeur qui se dégage. Donc, bah, ça arrive surcuit ou ramolli. En fait, c'est pas du tout pareil. Donc, on en a fait un peu. Et là, j'ai repris depuis un mois. Donc, ça marche et ça permet de payer quelques charges. Mais c'est pas mon métier, en fait. Et je pense que d'autres ont réussi à se... et ont eu envie de se renouveler, de réfléchir à ça. Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me... Je prends pas de plaisir là-dedans, quoi. Donc, c'est un peu compliqué.
En tout cas, comme tu dis, c'est un autre type d'offre. Donc, ouais. On ne dit pas que de retranscrire sa carte en click and collect. C'est vraiment la repenser pour...
Ouais, c'est pas simple du tout. Ouais. Et puis, c'est même en termes d'organisation, par exemple avec les employés, parce que quand tu fais un service où tu as 30 ou 40 couverts, bah, tu sais qu'il va te falloir X serveurs et X personnes en cuisine. Mais finalement, quand tu es fermé et que tout ce que tu fais, c'est de la livraison, tu te dis, bon, bah, je ne vais plus avoir besoin de serveurs. Tu mets tout le monde au chômage partiel. En cuisine, finalement, si tu as juste 10 commandes qui sont toutes espacées, bah, tu peux t'en sortir tout seul aussi. Donc, c'est aussi ce risque-là de jamais trop savoir ce qui va t'attendre. Donc, c'est pas... ouais, le métier a complètement changé. Là, c'est plus du tout la même chose.
Alors, en attendant, il faut garder le contact avec ses clients. Toi qui étais très présente sur les réseaux sociaux, donc tu continues à garder ce lien en montrant ton travail avec tes photos, puisque tu es photographe aussi, hein, culinaire.
Oui, bah, je me dirais pas photographe culinaire, on va dire que je m'y suis mise parce que bah forcément pour la partie blog, Instagram, ça aide et puis ça reste, on va dire, de soi-même faire quelques photos, c'est le moyen le plus simple aussi d'être réactif sur les réseaux quand on rajoute des nouveautés à la carte. Après, moi, j'aimerais bien à terme bosser avec une photographe et avoir quelque chose un peu plus... un peu plus carré, mais au moins ça a le mérite de garder un peu de pouvoir garder du lien, de continuer d'animer les réseaux. Et au moins je l'ai vu sur avril, quand j'ai rouvert début avril, c'est qu'il y avait quand même de l'attente sur une réouverture, même en livraison. Et c'est vrai que de garder un petit peu une activité sur Instagram, ça permet aussi de rester encore en lien avec la clientèle, quoi.
Donc pour toi, les réseaux sociaux, ça reste quand même des outils importants pour montrer son travail en tant que professionnel dans ce secteur-là, en ayant de belles photos de préférence.
Oui, oui, carrément.
Sur Instagram, non, c'est bien. En tout cas, mais surtout les réseaux sociaux, c'est ce que je conseille aussi aux professionnels, d'avoir des réseaux sociaux de qualité pour montrer leur travail, comme tu l'as fait d'ailleurs au début, c'est-à-dire... sans avoir encore créé le projet, mais c'est à montrer ce qu'on fait et puis engager la communauté petit à petit.
Ouais, tu te crées une identité assez facilement. Puis l'avantage, c'est que là, c'est encore moi qui gère les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, je le déléguerai, mais forcément, bah, y a des personnes qui me suivent depuis le début de la page Instagram, qui sont devenues des clients ou qui sont passées au restaurant. Et c'est vrai que bah, ça crée un lien aussi et ça reste sympa quand t'as échangé avec des gens depuis 4 ou 5 ans et que tu les rencontres. C'est une des valeurs ajoutées, une des belles choses qu'il peut y avoir sur Instagram ou sur Facebook ou autre, quoi.
Tu es aussi sur Facebook, LinkedIn, sur d'autres réseaux, Twitter un petit peu, non ?
Twitter, pas du tout. LinkedIn, pas trop. Et Facebook, j'ai créé la page, mais en fait, c'est vrai que moi-même, j'utilise plus du tout Facebook, en fait. Et j'ai du mal à le... Enfin, la manière dont les pages professionnelles sont faites sur Facebook me parle moins. Je trouve que c'est moins facile d'échanger dessus. Et comme ma clientèle est quand même relativement jeune, je pense qu'on est sur un jeune trentenaire ou quelque chose comme ça, bah forcément, le réseau qui a pris le plus, c'est Instagram sur cette génération-là. Et c'est vrai que Facebook, j'ai un peu du mal à l'animer, quoi.
Ouais. Ça dépend effectivement de ta clientèle, en fait, de la tranche d'âge, du réseau qu'elle utilise. Et puis de ce que tu veux en faire aussi, parce que là, tu es sur une clientèle, mais après, si tu veux aller chercher des partenaires d'affaires ou même d'autres clients, tu peux aussi aller sur LinkedIn, qui est un réseau très puissant, parce que les clients sont aussi sur LinkedIn, et de plus en plus, ce réseau se développe sur...
Ouais, j'ai l'impression que ça a bien repris, ouais. Alors que moi, j'en avais des souvenirs plus de sortie d'école où quand tu commences à vouloir chercher du travail, tu mets ton CV. Ouais, j'ai l'impression que ça avait bien décollé, que d'un coup, enfin, il y a eu une période où c'était un peu retombé dans l'oubli, mais que là, ça reprend de plus en plus. Ouais.
Et en quoi la photo est importante en cuisine végétale? Est-ce que tu penses que la photo aide à sublimer les plats, à montrer peut-être les détails de certains produits, de montrer comment aussi on peut dresser un plat en cuisine végétale? Parce que c'est pas simple non plus d'imaginer comment dresser, comment associer. Est-ce que la photo aide à ça?
Ouais, je pense que ça aide à donner envie. Bah, déjà, c'est facile parce que ça reste une cuisine qui est colorée. À partir du moment où on utilise beaucoup de légumes, d'herbes, de fruits, etc., ça, il y a une palette de couleurs qui est quand même importante. Donc, sans forcément bien dresser, je pense que ça peut donner envie en termes de photos. Et après, même pour la partie dressage, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de complètement inventer et de partir un peu de zéro parce que en cuisine traditionnelle, le dressage, ça va être une pièce de viande ou de poisson et un petit accompagnement à côté. Ce qu'on ne peut pas faire dans le végétal parce que finalement, dans l'assiette, bah, tu as toutes tes céréales ou légumes ou et oléagineux qui sont mélangés. On ne va pas faire des petits tas séparés. Donc là, je pense que c'est encore en train de se créer. Chacun trouve un peu sa petite patte au fur et à mesure, mais ça reste un peu compliqué d'imaginer aussi. Donc la photo, ça permet de montrer quand même ce qu'on va avoir dans l'assiette et de se faire une idée avant, quoi.
Donc, comment tu fais toi et comment tu dresses tes plats et quand tu fais tes photos de tes plats, qu'est-ce que tu veux montrer précisément?
Je pense que j'essaie de montrer que c'est gourmand déjà, parce que peut-être essayer de casser un peu les a priori en disant que on va avoir faim et qu'on va juste manger des légumes et pas grand-chose de plus. Et d'essayer de mettre en avant un peu chaque produit qui compose l'assiette pour le décrire au mieux. Parce qu'encore une fois, en cuisine traditionnelle, si on parle d'un bœuf bourguignon ou de je ne sais pas quel plat, forcément ça fait écho pour tout le monde parce qu'on sait de quel plat on parle. Donc finalement, d'avoir une photo, bon, bah, ça aidera, mais ce n'est pas non plus indispensable. Alors que là, comme on est sur des plats qu'on crée complètement, même s'il y a des inspirations de cuisine soit française, soit du monde, c'est peut-être un peu plus difficile d'expliquer ce qu'on a dans l'assiette. C'est moins clair, c'est moins lisible. Donc là, la photo, elle aide vraiment à expliquer aussi ce qu'il y a dans l'assiette.
Ouais. Et qu'est-ce qui rend un plat végétal gourmand finalement?
Moi, en général, je vais plutôt réfléchir à ce qui est un peu de mâche déjà. Parce que j'ai l'impression en tout cas que la satiété c'est aussi lié au fait de bah, dans l'assiette de couper, de prendre son temps, etc. Et en végétal, quand on a retiré la pièce de viande que tu prends du temps de couper, de mâcher, je trouve que c'est important d'avoir bah, des morceaux de légumes que tu vas avoir aussi besoin de découper ou des choses comme ça. Parce que très vite, ça peut manquer un peu de mâche du quinoa ou des légumes un peu cuits, bah, il n'y a pas autant de mâche que dans une viande ou un poisson. Donc en général, je réfléchis un peu par rapport à ça, qui est quand même des éléments qui apportent du volume et que ce soit un peu gourmand. Et après, de réfléchir avec des éléments un peu plus croquants. Donc, est-ce que ça va être un granola salé ou garder des noisettes, des choses comme ça. Et de toujours avoir une sauce ou une pointe d'acidité avec des pickles, du citron, des choses comme ça pour que ça relève un petit peu, parce que forcément... Même si on utilise des épices ou des assaisonnements, il faut aller chercher un peu plus loin que sur les céréales et les légumes bruts, quoi. Ça demande un peu plus de travail, je pense, à ce niveau-là.
Oui, et de réflexion aussi sur les
Ouais.
textures et les goûts associés pour retrouver, comme tu dis, cette mâche et ces repères en fait que l'on a et apporter de la gourmandise. Oui. Est-ce que tu as une préférence en cuisine, quelque chose que tu préfères cuisiner ou pâtisser?
Je pense en cuisine, c'est pas forcément ce que je fais au restaurant, mais En fait, j'adore tout ce qui est un peu plus cuisine asiatique. Et c'est vrai que très vite, je vais avoir envie de mettre du tamari, du gingembre, des choses comme ça, le sésame. C'est vraiment des saveurs, je pense, que j'aime le plus. Et après, enfin, c'est des condiments qu'on utilise au restaurant. Et je vais toujours avoir un. Souvent, dans les offres de plats ou d'entrée, j'en ai toujours un qui est sur ces saveurs-là. Mais c'est vraiment ce que j'aime le plus, même au quotidien. En fait, c'est. Avec ces éléments-là, je trouve que c'est très facile de donner du goût sans forcément passer beaucoup de temps en cuisine. Donc, et puis c'est gourmand, donc.
Les épices, c'est tout un monde. On a l'impression que ça va être épicé, pimenté, mais pas forcément. Ça donne vraiment du goût selon la manière dont on les travaille et comment on les incorpore. Ouais.
Il y a plein de choses qui ont du goût, mais qui sont pas forcément pimentées, comme tu dis, quoi. Je pense que la plupart des épices sont des épices douces, de toute manière, c'est pas forcément quelque chose qui va arracher aussi, quoi.
C'est aussi une pédagogie hein, du goût par ces épices qu'on connaît finalement mal, ou même au-delà des épices, hein, toutes les plantes, les herbes qu'on connaît pas suffisamment et qui vont apporter des choses intéressantes en cuisine végétale.
Oui, ça ouvre un nouveau monde et je pense même par rapport au sel. Souvent, en cuisine végétale, les clients peuvent faire le retour que c'est pas assez salé ou ce genre de choses. Et en fait, moi, je me demande si c'est aussi parce qu'on a un peu déshabitué notre palais, finalement, du fromage, de la charcuterie, qui sont des produits très, très salés. Mais en fait, on s'en rend pas compte quand on les consomme au quotidien. Et quand tu as supprimé tous ces produits-là de ton alimentation et que tu reviens à des choses un peu plus brutes qui, de base, ne contiennent pas de sel, forcément, le palais, il change. Et du coup, j'ai l'impression qu'on devient un peu plus sensible justement à ces épices douces, à être capable de les distinguer, de les apprécier, alors que très vite, dans une alimentation omnivore, tu es peut-être un peu enfermé dans le sel, le poivre et un peu moins dans les herbes ou les choses comme ça, quoi. Donc, le palais évolue de toute manière. Donc, ça, c'est pas toujours simple après à gérer quand ta clientèle, bah, tu as aussi bien des omnivores que des végétaliens ou des végétariens, c'est pas. Faut jongler, quoi. Ça redemande.
Ils n'apprécient pas la cuisine végétale de la même manière, en fait.
Non, 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 du tout, ouais.
Leur goût est différent.
Ouais,
Ouais.
complètement.
Et les retours que tu as des omnivores, quel retour ils te font de ta cuisine?
Moi, souvent, ce qui me fait rire, c'est quand les gens disent de manière très spontanée, ah, mais c'est bon, en fait. Ça,
En fait.
en fait, je pense que ça veut tout dire. Ça et plus le. Ben, en fait, les deux choses qui reviennent, c'est vraiment ah, c'est bon en fait, ou ah, mais c'est bon, en fait, je pensais pas que j'allais prendre du plaisir à table, etc. Ou le côté aussi bah, copieux, parce que je pense qu'il y a vraiment cet a priori de j'ai retiré la viande ou le poisson et il reste que des légumes, mais forcément, en fait, dans un restaurant traditionnel, quand on va avoir une pièce de viande et que les condiments, enfin l'accompagnement, c'est très peu à côté, là, c'est un peu l'inverse finalement, parce que comme le légume ou le céréal, bah, c'est tout ce qui compose l'assiette, tu es obligé aussi d'en mettre un peu plus, donc c'est pas le même ratio. Et en plus, moi, dans la carte, j'essaye toujours d'avoir une légumineuse en entrée en me disant, bah, c'est vrai que quand on a un appétit un peu plus conséquent, d'avoir aussi cet apport-là en légumineuse, ça aide à être un peu plus rassasié. Aussi, donc
Oui,
ouais,
avec
c'est les
ton entrée plat dessert, tu essaies quand même de garder un menu complet.
ouais de pouvoir que chacun puisse se dire bah, si j'essaie de manger un peu plus protéiné, bah forcément tu prends un houmous de lentilles en entrée et puis tu vas prendre le plat avec du tofu, alors que si tu veux quelque chose de plus léger et que tu pars sur un plat de je sais pas d'un quinoa avec d'autres légumes, c'est pas aussi le même c'est pas la même satiété non plus, donc clairement ça joue aussi là-dessus, quoi.
Alors, j'allais te demander tes projets pour l'avenir, mais l'avenir est tellement incertain que qu'est-ce qu'on peut souhaiter en tout cas pour la
Non, bah une réouverture et puis une réouverture qui dure, on va dire, et pas juste 2 mois. Ce sera déjà ça. Enfin, on va voir comment ça se passe. Et non, bah après, sinon, moi j'avais profité de la fermeture là cet hiver pour me mettre sur un livre de recettes. Pour moi, c'était vraiment le moyen, en fait. Je pense que comme beaucoup de restaurateurs, on s'est retrouvé enfermé dans une période où on ne pouvait pas faire ce qu'on aimait. Et au moins, ma réflexion, c'était, bah, en fait, le restaurant, c'est juste devenu une source de problèmes. Et j'avais besoin de faire autre chose. Et Le livre de recettes, c'était un projet que j'avais depuis un moment, mais qui était resté un petit peu en stand-by parce que forcément, avec l'ouverture, c'était compliqué de gérer les deux. Donc là, j'ai pu avancer là-dessus. Et donc, il reste encore une bonne moitié à faire, mais ça sortira au printemps 2022. Je ne sais pas la date encore, mais
Yeah.
pas tout de suite, quoi.
Oui, ça demande du
Mais
temps
ça
de.
va venir. Ouais.
Ok.
Et puis voilà, bah, que le restaurant puisse grandir et qu'il y ait d'autres restaurants végétaliens encore plus à Paris, qu'on sorte aussi un peu de la cuisine du burger et fast-food et qu'on puisse tirer tout ça un peu vers le haut et avoir un peu plus de diversité. J'espère que c'est ce qui va aussi ressortir de cette crise parce que c'est malheureux, mais il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé. Mais du coup, j'espère que ça va aussi remettre un petit peu en cause la manière dont on consomme et dont on a envie de consommer au quotidien et qu'il y a des chouettes projets qui vont sortir de tout ça, quoi.
Quel conseil tu donnerais d'ailleurs à ces personnes qui réfléchissent à une reconversion professionnelle, qui veulent se lancer dans cette thématique et qui profitent aussi de cette période de réflexion pour créer leur propre projet et se projeter dans un avenir plus serein sur ces thématiques? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
Je pense déjà de ne pas forcément avoir peur de la crise, dans le sens où j'ai l'impression que de toute manière, que ce soit une crise sanitaire, financière ou autre, il y a toujours des perdants et des gagnants. Et c'est ça, c'est la vie, c'est l'économie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc ça ne doit pas non plus être un frein, je pense, à faire de la restauration. Peut-être de la penser autrement, dans le sens où. Bah, je pense que à emporter, même si moi, c'est pas ce que j'aime faire, je pense que ça va devenir un créneau, on va dire, important dans le business de la restauration. Et peut-être si on pense justement ouvrir un restaurant, bah, ne pas négliger cette partie-là, ou peut-être penser un peu à une partie épicerie ou des choses comme ça. En tout cas, des relais de croissance qui permettent bah, aussi de garder un certain chiffre d'affaires si jamais on est amené dans les mois ou les années à venir à continuer de vivre ce genre de crise sanitaire. Et puis après, de pas hésiter non plus, bah, un peu comme je l'avais fait au début, à prendre contact avec des restaurateurs végétariens ou autres. Parce que finalement, ça reste un petit milieu. Et en fait, on est amené à tous se croiser ou à travailler ensemble à un moment ou à un autre. Et je trouve ça important aussi de partager ces expériences. Donc, ouais, de pas hésiter à aller frapper à la porte d'un autre restaurateur et de faire des stages, des extras, finalement, comme on n'a pas encore accès au CAP, il ne faut pas hésiter à apprendre sur le terrain parce qu'il y a quand même des choses à apprendre aussi avant de se lancer à 100% dans son projet, quoi.
Super, merci Fanny.
Voilà. Bah, merci à toi, Karine.
Bon courage
Avec plaisir.
pour les prochains
Merci.
temps, pour la réouverture et j'espère qu'on pourra revenir chez toi,
Ouais, se revoir à table.
revoir en vrai à table. Et The
Avec
Friendly
plaisir.
Kitchen. Donc on peut te suivre sur ton compte Instagram, The Friendly Kitchen. Et tu réponds aux messages, aux commentaires, tu es active. Je disais
Yes.
tout à l'heure que c'était toi qui menais la barque de ton compte. Donc, si on veut te contacter, on peut le faire
Ouais,
pour le
il n'y a
compte
pas de souci.
Instagram. Super. À bientôt, Fanny.
Merci, à bientôt.
Voilà, j'espère que cette conversation avec Fanny vous a donné envie de découvrir son restaurant. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre Fanny sur les réseaux sociaux, sur le compte The Friendly Kitchen, et à nous partager vos photos si vous passez au restaurant. N'hésitez pas à suivre également l'Institut V sur les réseaux, à vous inscrire à notre newsletter sur notre site web. Et pour celles et ceux qui voudraient rejoindre le Club Institut V, qui est le réseau professionnel dédié à la gastronomie végétale, envoyez-nous un petit message et nous y répondrons avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.